Halloween vient juste de passer et pourtant je vous propose tout de même de retourner dans le thème de l'épouvante et dans le fantastique pour s'attaquer à un mythe qui fascine la littérature et le cinéma depuis des années. En effet, il y a tout pile 100 ans, sortait dans les salles obscures un chef-d'œuvre du cinéma expressionniste allemand. C'est ce film qui a fait basculer le cinéma dans une sorte de vampire mania. Depuis, les films de ce genre n'ont pas cessé de reprendre ou de rendre hommage à ce merveilleux film. En 1922, donc, était diffusé pour la première fois le Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau. Ce film marque donc un tournant dans l'histoire du cinéma allemand et mondial. C'est avec ce film que nous découvrons l'histoire de Dracula. Ainsi, la sortie du film restauré du Murnau dans un coffret collector et la ressortie en salle du Dracula de Francis Ford Coppola en version restaurée m'a donné envie de m'attaquer aujourd'hui au mythe du vampire. Allons-y, c'est parti.
Des étoiles, présenté par Erwan Moreau.
C'est au sein d'un décor lugubre et terrifiant que nous pouvions découvrir à la Cinémathèque française, il y a quelques temps déjà malheureusement, les traces d'un personnage singulier et atypique dans une exposition sobrement intitulée « Vampire de Dracula à Buffy ». Cette exposition nous proposait de nous faire plonger au cœur du fantastique et du terrifiant pour nous faire découvrir ou redécouvrir l'histoire du vampire. C'est au travers de différentes salles thématiques que nous pouvions se retrouver sous l'emprise de cette créature mystérieuse et fascinante. C'est lors de nos déambulations que nous pouvions découvrir différentes facettes de ce mythe, de sa création littéraire à son adaptation cinématographique ou picturale, à l'érotisation du personnage ou encore à la politisation du vampire. Tout était réuni donc pour nous faire comprendre l'importance du vampire. On est d'accord pour dire que tout le monde connaît le vampire, créature légendaire et fascinante. Présente dans toutes les mémoires, cette créature ne meurt jamais et est depuis le 19e siècle une fascination pour les écrivains et les poètes. Aujourd'hui, nous allons tenter de dépoussiérer ce mythe. Et pour nous aider dans cette tâche, nous recevons Florence Rocha, réalisatrice, scénariste et conférencière à la Cinémathèque française. Elle sera notre guide dans l'au-delà pour comprendre la fascination et l'importance de ce personnage mythique. Bonjour Florence Rocha.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre pour vampiriser nos auditeurs. Alors on va commencer tout de suite avec une première question. Quand on évoque le mythe du vampire, on pense instinctivement au roman Dracula de Bram Stoker et donc on prend pour acquis 1897, la date de parution du roman, comme date clé de création du personnage, mais sa création remonte bien plus loin en arrière, notamment au Moyen-Âge. Comment expliquer le fait que cette créature nous suit depuis tout ce temps et que représente le vampire pour nous ?
Alors en effet, Dracula va vraiment cristalliser le mythe du vampire, mais c'est déjà un aboutissement en soi. Il arrive à un moment particulier et la finalité d'un regroupement de toutes sortes de légendes. Tout bêtement, le vampire nous renvoie à nous-mêmes et à notre finitude. D'ailleurs, quand on voit l'adaptation de Murnau, Nosferatu, qui signifie tout simplement non-mort, c'est cette idée d'un seul coup d'une créature qui arriverait à survivre à l'inévitable, à cette mort qui va venir un jour nous faucher. Et le vampire est un petit peu une créature qui nous promet qu'il y aura autre chose, qu'on peut continuer à vivre, même si c'est au prix d'être un peu une créature plus ou moins surnaturelle et effrayante qui survit aux dépens du sceau des autres, du sang des autres. D'ailleurs, au tout départ, c'est plus une image de sangsue qu'on pouvait avoir vers l'Antiquité. Cette créature un peu parasite, on associe beaucoup le vampire au parasite. Et le vampire va revenir systématiquement dans des catastrophes qui suivent les hommes depuis toujours, à savoir les épidémies, les grandes guerres, les morts par centaines avec tous ces caveaux remplis de cadavres à des époques qu'on entasse. Et bien sûr, c'est aussi avec l'avènement de la science. Il va y avoir l'arrivée des lumières, d'un seul coup on va être plus rationnel et le vampire va bizarrement encore plus revenir comme une nécessité de garder une part de mystère. On n'a pas envie que tout soit explicable et c'est pour ça aussi que le cinéma va autant le récupérer parce que c'est une créature mouvante qui évolue sans cesse et qui va à chaque fois changer en fonction des phénomènes historiques. Il va sans cesse revenir, c'est pour ça qu'il est immortel, il peut reprendre toutes les formes possibles, aussi bien, comme on l'a dit, les guerres à travers le nazisme, etc., arriver à l'époque de l'épidémie du sida, enfin voilà, il est là pour nous rappeler constamment qu'on n'est pas à l'abri de ce qui est au-dessus de nous et d'une part non maîtrisable du monde.
D'accord, donc vous disiez que le vampire donc, est issu des croyances populaires, notamment établies au Moyen-Âge, et il faut attendre des traités scientifiques, comme le traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenants de Hongrie ou de Moravie, du moine Antoine-Augustin Calmet en 1746, ainsi que l'arrivée du courant littéraire gothique, pour voir se propager le vampire avec des romans ou avec des nouvelles. En quoi le roman de Bram Stoker, donc Dracula, révolutionne la société victorienne de l'époque et en quoi cette œuvre est influente pour l'histoire des vampires ?
Alors, déjà, juste pour resituer un tout petit peu, parce qu'il arrive quand même après deux ouvrages très importants, qui restent d'ailleurs toujours la littérature gothique plutôt britannique. Il y a d'abord le fameux livre Le Vampire de John William Polidori, qui vient d'une anecdote très célèbre, qui est qu'on a Lord Byron, Mary Shelley et donc John William Polidori, Percy Shelley, qui sont tout jeunes en vacances à la Villa Diodati. Malheureusement, il ne fait pas beau, ils s'ennuient et ils sont assez amateurs. C'est déjà un peu à la mode, cette littérature un peu effrayante. Et ils se lancent dans un concours de nouvelles horrifiques. Ça va donner la naissance par Mary Shelley de Frankenstein, qui est aussi un peu déjà une peur de l'ère industrielle qui s'annonce, hein, une espèce de créature mi-homme, mi-asservie. Et Lord Byron va faire le premier brouillon du vampire, The Vampire. Et au départ, une espèce de créature plutôt sang bleu de la grande noblesse qui va sucer le sang des pauvres. Et c'est là vraiment que la mythologie de ce vampire qui viendrait d'une espèce d'élite même sociale effrayante qui vient s'abreuver du sang des personnes les plus asservies autour de lui. Et c'est là que ça change parce qu'avant, le vampire est plutôt une mythologie populaire qui vient du peuple, justement. Puis on va voir Carmilla de Sheridan le Fanu, 1872, vampire-femme, pareil, une manière détournée presque de parler de sexualité oui. Entre femmes.
On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, mais voilà. Oui, c'est vrai que c'est un ouvrage très important, notamment pour comprendre le personnage féminin et tout ce qui s'ensuit après.
Tout à fait. Et on va dire que la littérature justement gothique permet, sous couvert d'un univers fantastique, d'aborder toutes sortes de choses sexuellement, de pulsions sexuelles que la société victorienne proscrit totalement, qu'on n'a pas le droit d'aborder. Bram Stoker, donc, revenons-en à lui, lui grandit vraiment à l'époque de l'Angleterre victorienne. C'est quelqu'un de très conservateur. Il prône des idées, voilà, il est très croyant. Il refoule énormément, en tout cas, toutes ses pulsions sexuelles. Et on pense... Il travaille dans un théâtre à l'époque et il a une amitié très proche avec un comédien qui dirige ce théâtre, Henry Irving, et qui a une personnalité fascinante, qui a un peu une emprise sur les autres, ce qu'aujourd'hui on appelle toujours un peu le pervers narcissique quand on généralise. Et on pense qu'il y avait peut-être une attirance amoureuse refoulée de la part de Bram Stoker, qui, quand il va écrire le roman Dracula, va matérialiser complètement toutes ses interdits sexuels. Et c'est là qu'il est extrêmement important, ce roman, en 1897, parce qu'il y a un avant et un après dans cette manière de se servir finalement de ça a toujours existé, mais de cette figure-là littéraire pour parler d'un pulsionnel refoulé. D'ailleurs, c'est le début de la psychanalyse, donc c'est pas pour rien aussi. Et d'un seul coup, le vampire porte toutes sortes de choses, même si au départ, on veut juste le montrer comme une créature détestable.
Si l'invention de la photographie a permis aussi de figer dans le temps la mémoire de ses proches, c'est l'arrivée du cinéma qui crée un nouveau rapport privilégié au cinéma comme fantôme. Ainsi, le cinéma enregistre et reproduit la vie. Il semble faire ressusciter les morts, au point qu'avec le cinéma, la mort n'existe presque plus. Alors, comment expliquer le fait que le cinéma va très tôt s'emparer de cette créature ? Parce que, en fait, c'est pratiquement dès la création du cinéma. Et surtout, pourquoi il y a une grande fascination du public pour ce genre de film ?
Oui. Alors, déjà, un des premiers points importants quand on parle du mythe du vampire, du roman Dracula notamment, et du cinéma. Le cinéma, en tout cas, la date considérée comme officielle de naissance du cinéma, c'est le 28 décembre 1895, avec la première projection publique et payante des Frères Lumière. Et d'un seul coup, certaines personnes qui ont assisté aux premières projections se disent déjà, au départ, on voit ce monde retranscrit de gris, de noir et de blanc, et des personnages qui avancent comme des fantômes qui errent dans l'image. Et cette sensation qu'on a réussi, l'impossible, laisser des gens en vie à tout jamais. Avant, on avait, comme vous disiez, la photo. Et Bram Stoker, Dracula, toujours pareil, cette volonté de défier la mort, c'est 1897. Donc il y a une correspondance entre une envie, au moment où on comprend avec le siècle des Lumières, encore une fois, cette finitude, un moment plus cartésien, de continuer à rêver et à croire à des univers un peu surnaturels et impossibles. le vampire arrive un peu par touche, déjà avec Méliès. Méliès, Georges Méliès, qui va faire plutôt des films féeriques. Il va toujours aussi essayer un petit peu par des films magiques de science-fiction ou fantastiques de créer des mondes impossibles pour les spectateurs. Donc il y a quand même très tôt cette envie de sortir d'un quotidien qui est devenu peut-être plus rationnel, encore une fois, avec l'ère industrielle, les lumières et toutes les innovations. Et on dit aussi que c'est le moment où arrivent les rayons X comme pour comprendre l'intérieur du corps, la psychanalyse pour comprendre la psyché. Et on a cette arrivée du cinéma qui va être un petit peu la jonction de tout ça. Et donc ce vampire va vraiment prendre une forme particulière en 1922. On en a parlé avec Murnau. Et pourquoi est-ce qu'il fascine? Tout simplement parce qu'encore une fois, il va nous parler à nous et nous demander nous, qu'est-ce qu'on ferait si on avait peut-être cette vie éternelle? Et il révèle aussi notre part un peu... je pense, d'inhumanité et notre part un peu sombre. Je pense toujours, en fait, à une scène que je trouve magnifique quand on étudie le mythe du vampire. C'est dans Dracula de Francis Ford Coppola, où il y a vraiment des codes dans les films de vampires, puisque c'est le roman souvent adapté de Stoker, enfin, le roman de Stoker qui est adapté. On retrouve des scènes clés, l'arrivée où on franchit le pont, le passage du monde réel à un monde... qu'on ne comprend plus tout à fait, la nuit qui effraie tous les hommes depuis toujours, qui nous amène dans un moment où on maîtrise moins, et peut-être qu'on aime ça aussi, de ne pas toujours tout maîtriser, de ne pas tout comprendre. Et cette scène donc où Jonathan Harker se rase, et Dracula, qui est derrière lui, avec Gary Oldman, là, quand il est encore tout vieux et assez impressionnant, arrive pour lécher le sang, puis on ne voit pas son reflet, et on comprend que quelque part, le vampire, c'est nous, en fait, c'est ce que je disais. Il révèle vraiment notre part d'indicible, et peut-être qu'on a besoin du cinéma pour ça, pour nous montrer nos parts les plus sombres, nos pulsions, qu'on ne peut pas souvent partager, ça nous permet un peu d'évacuer tout ça. Il y a une valeur forte psychanalytique du cinéma.
D'accord, oui, c'est vrai que quand vous parliez de la traversée du pont, on va en parler justement notamment avec Nosferatu qu'on va évoquer à présent. Mais c'est vrai que quand vous parlez des codes cinématographiques, on peut parler de Nosferatu comme étant la première adaptation cinématographique du vampire, puisque avant il y a eu Les Vampires de Louis Feuillade comme serial au cinéma. Mais c'est vraiment Nosferatu le vampire, donc le film de Murnau sorti en 22, qui va ancrer notamment un langage cinématographique et comment, avec ce film notamment, on arrive à avoir un impact du vampire, qui est une adaptation illégale d'ailleurs de Dracula.
Tout à fait. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que Murnau a l'idée de faire ce film parce que c'est son chef décorateur, Albin Grau, qui lui parle du roman Dracula de Bram Stoker. Il a envie de le faire, c'est compliqué d'avoir les droits, donc il va se lancer. Et par la suite, Florence Stoker, la veuve de Bram Stoker, va faire un procès. Puis le film va devenir un film maudit, interdit, qui va être brûlé. Et il va y avoir une aura encore plus mystérieuse autour de ce film un peu rare. Il y a toutes sortes d'histoires qui vont se cristalliser autour de lui. Et en effet, il arrive à un moment particulier de l'histoire, ce moment de l'entre-deux-guerres, où l'Allemagne est en pleine crise, il y a eu le traité de Versailles, il y a vraiment peu de moyens aussi pour faire du cinéma, il y a beaucoup de chômage, l'argent, la monnaie, le mark a perdu totalement de sa valeur, on parle de gens avec des brouettes qui vont acheter une baguette de pain, et le cinéma a quelque chose comme ça, d'éponge, il sent un petit peu comme quelque chose de prémonitoire, un peu même justement surnaturel quelque part, il peut capter des choses de l'époque. Et ce film a resté essentiel parce qu'il sent venir finalement ce qui va se passer avec le nazisme. Et comme on est encore au temps du cinéma muet, il faut réussir à capter, à créer un univers, mais uniquement via les moyens du cinéma. Et là, on est vraiment dans l'image la plus pure, l'utilisation de l'image vraiment pure, l'utilisation des ombres, du cadrage. Comment donner corps à une créature qui, par essence, n'en a pas? Et entre deux, je revois toujours cette image de Nosferatu dont l'ombre... immense, monte les escaliers pour arriver dans la chambre, pour aller voir sa victime. Et là, c'est vraiment les moyens du cinéma qui sont mis en jeu. Quand Werner Herzog décide de faire le film hommage, il dit qu'il a l'impression d'avoir vu le plus beau documentaire sur les vampires en voyant le film de Murnau. Aussi parce qu'il fait le choix d'aller filmer en extérieur et pas en studio. Enfin, c'est un film extrêmement audacieux qui, parce qu'il y a aussi ces problèmes en termes de moyens économiques, va chercher au maximum à exprimer le plus possible avec ce qu'il peut avoir. Quoi. Donc en fait, les outils du cinéma pur. Quoi.
D'accord. Et donc on va passer directement à la question sur le film hommage à Werner Herzog, donc, qui a sorti lui-même son Nosferatu en 1979, avec donc, comme vampire Klaus Kinski et comme victime du vampire Isabella Gianni. Comment expliquer que les deux films soient si différents? Pourtant, ils portent le même titre et c'est à peu. Il adapte le. Il rend hommage donc à Murnau, au film de Murnau. Comment est-ce qu'on arrive à deux films si différents?
Oui, alors c'est vraiment deux lectures de deux réalisateurs allemands à des moments différents. Là, comme je viens de le dire, pour Murnau, on a une période un peu prémonitoire qui presque annonce, et d'ailleurs dans d'autres films de l'expressionnisme allemand, chez Fritz Lang, on le sent aussi, ça annonce un terrain propice à cette montée du nazisme et à toute l'horreur qu'on connaît qui va suivre. Et pour beaucoup d'ailleurs d'historiens du cinéma, il y a un avant et après la Seconde Guerre mondiale dans le cinéma et dans l'art en général. La découverte des camps de concentration font qu'on ne pourra plus représenter le réel de la même manière. Et il y a une croyance en l'humanité qui change aussi à ce moment-là, il y a un basculement qu'on retrouve avec le néoréalisme italien, etc. Et Herzog, en fait, Werner Herzog, c'est Lotte Eisner, qui historienne de cinéma, qui lui parle et qui lui fait, comment dire, prêter attention au film de Murnau en lui disant qu'il y a quelque chose d'intéressant, un lien à faire entre l'Allemagne d'après-guerre, la génération d'Herzog et celle d'avant. Et il va regarder le film et il va dire « Je me suis rendu compte que finalement, je voulais faire un film pour parler des enfants de cette Allemagne-là qui ont eu des pères soit disparus et tués pendant la guerre, soit des pères dont on ne parle plus parce qu'ils ont été nazis ou tout simplement une génération qui ne parle plus, qui est silencieuse parce qu'elle a honte. » Et pour lui, ce Nosferatu au physique monstrueux, il raconte ça, cette espèce d'incarnation du mal, même si lui, il en fait un peu un plus romantique, c'est ce qu'il explique. Il dit, c'est pas un remake, c'est vraiment un hommage. Et j'ai voulu raconter ma vision, finalement, de l'Allemagne d'après-guerre. Et c'est ma génération qui communique avec celle de nos grands-pères. Et la différence fondamentale, au-delà des pays dans lesquels ça se passe, c'est qu'à la fin du Murnau, le vampire a été maîtrisé, tué, et en quelque sorte, le mal disparaît. On croit encore à la possibilité qu'il y ait une fin heureuse où tout ça n'est qu'un vilain cauchemar. Alors que chez Werner Herzog, il arrive à finalement contaminer Harker. Et même si le vampire meurt, il y a un autre vampire et ça va se perpétuer, ça va continuer finalement les vampires. Et c'est l'intention du vampire, c'est étendre son pouvoir sur le monde. C'est une espèce de besoin de pouvoir. Et c'est comme s'il disait, après la Seconde Guerre mondiale, on sait que ça ne se termine pas comme ça, ça continue, les choses se diffusent, les choses sont plus complexes. Et c'est ça qu'il va vraiment raconter à travers son film.
D'accord, oui. C'est vrai que c'est intéressant de voir les deux visions d'un même réalisateur, enfin de deux réalisateurs différents, mais qui sont allemands tous les deux. Mais c'est vrai qu'un avant la Seconde Guerre mondiale et le second après. Et donc moi j'aimerais revenir aussi sur les codes utilisés chez Murnau, parce que ce qui est très intéressant, c'est ce que vous disiez notamment dans le passage avec le pont dans les films avec notamment Francis Ford Coppola, son Dracula qu'il a fait. Et donc ce qui est intéressant avec le film de Murnau, c'est que Murnau nous invite vraiment à voir le vampirisme affleurant au réel. Et donc en fait j'aimerais citer aussi Michel Bouvier et Jean-Louis Letrain, puisqu'ils nous disent dans l'ouvrage Nosferatu, publié en 81, que, donc je cite, « Le fantastique est fondé sur l'omniprésence du règne animal, ainsi la nuit et la peur qui l'accompagne est annoncée par l'apparition de la hyène et le passage du vampire est marqué par la présence des rats. » Donc, fin de citation. Il y a donc une mise en parallèle entre le monde animal et celui de la bête. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que le film nous permet de montrer une traversée physique, mais aussi mentale du pont lorsque Hutter, donc à peu près à la moitié du film, arrive chez le vampire. En fait, cette traversée vécue et subie en même temps, elle modifie physiquement le film, et notamment par l'intertitre qui vient créer une deuxième frontière. Donc, je cite l'intertitre. « Quand il eut dépassé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. » Et moi, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, et j'ai trouvé que c'était un moment clivant dans le film, et notamment avec une frontière vraiment réelle dans le film et réelle chez le spectateur. Et donc, comment expliquer que ce film puisse avoir une aussi grande importance 100 ans après sa première diffusion?
Oui, en effet, c'est comme si au cinéma, certains films étaient un peu des films clés dans chaque genre et allaient poser très fort en fait, des codes, parce que c'était un moment où il y a encore peut-être tout à inventer et il est possible vraiment de créer comme ça un espèce d'imaginaire qui va être ensuite réexploré. Et Murnau, en effet, a complètement matérialisé ce moment où il y a un passage clair du monde réel au monde fantastique, il l'incarne. Et alors, je repense juste à ça parce que j'ai aussi une citation qui me fait penser à ça de Roger Caillois pour définir le fantastique qui me semble répondre aussi à cet intertitre très célèbre. Il dit le fait, enfin, il compare parce qu'il y a toujours cette question entre féerique, merveilleux, fantastique. Il dit le féerique est un univers merveilleux qui s'ajoute au monde réel sans lui porter atteinte ni en détruire la cohérence. Le fantastique, au contraire, manifeste un scandale, une déchirure, une irruption insolite, presque insupportable dans le monde réel. Donc quelque chose de peut-être plus violent et brutal dans cette idée du fantastique qu'on retrouve à chaque fois dans les différents films, et notamment dans le film de Murnau, où il y a un long moment un peu hypnotique, où on passe doucement d'un monde à l'autre, on commence à perdre contact avec la civilisation, on se perd dans cette espèce de nature de Transylvanie, puis d'un seul coup le pont, puis hop, on arrive à l'entrée de ce château, et doucement on se perd d'une manière un peu lambiratique, on se fait bercer, et il y a l'arrivée du vampire, que ce soit Nosferatu ou Dracula. Par exemple, chez Francis Ford Coppola, d'un seul coup, il se dresse d'une manière hyper brutale. Et c'est ça, c'est d'un seul coup, déchirure hyper violente du réel qui nous emmène ailleurs et qui nous étourdit. Et Murnau pose vraiment les bases avec ça. Et je repense toujours, je cite beaucoup le Dracula, parce que je pense que finalement, c'est un de... Il y en a plein, et il y a plein de manières de faire venir le vampire. Mais je trouve que sur l'arrivée de Harker, en tout cas chez Dracula de Coppola... Puisque les noms changent, évidemment, oui. Murnau a un peu joué. C'est ça que j'aime bien.
Horler,
voilà. Hutter, Harker, Horlock, Dracula. Mais bon, c'est ça aussi qui crée sa spécificité. Et donc, cette arrivée aussi est très bien mise en scène dans le Coppola, puisque quand Keanu Reeves arrive, il y a vraiment ce qui est filmé. Bon, il y a des grilles dans le château, etc. Puis d'un coup, il filme même son pied qui rentre dans le château, et il y a comme une ligne qui est formée par le carrelage sur le sol. Et c'est pareil que c'était des Dupont avec l'intertitre dans le Nosferatu. C'est, il y a vraiment une limite physique. Et quand on la franchit, on ne peut pas revenir en arrière. Oui. Et on est déjà à demi-mort, en fait, je pense.
Ou à demi-vampire.
Ou à demi-vampire, voilà. Exactement.
Et donc, à force de parler donc, là, des films Nosferatu et Dracula de Coppola, est-ce qu'on peut dire que le cinéma est la première victime du vampire ?
Alors, en tout cas, il est sûrement la première victime du vampire, mais en tout cas, il a beaucoup de points communs avec lui. C'est une analogie qu'on aimait bien faire au moment de l'exposition. Ce que je disais un peu aussi, il me semble, tout à l'heure, c'est que déjà, on va voir les films dans des salles où on est plongé dans le noir, à l'abri de la lumière du jour. D'ailleurs, à une époque, à l'époque des Frères Lumière, les opérateurs Lumière, pour changer les pellicules, il y avait une anecdote célèbre d'un opérateur qui allait changer sa pellicule. Comme il n'y avait pas encore de lieu dédié, il avait été dans un magasin de pompes funèbres se mettre dans un cercueil pour changer sa pellicule. Puis il y a des règles. Et autant le vampire n'a pas de reflet dans le miroir parce qu'on ne sait pas exactement qui il est. À la fois, il porte tous les maux. Et le cinéma, les caméras ne doivent pas se voir, elles doivent disparaître. Donc il y a quelque chose comme ça qu'on peut voir en commun. Et l'autre chose qui est passionnante, c'est que il y a vraiment plus d'un millier de films qui reprennent le mythe du vampire à travers les époques. Il y a des films parodiques, des films érotiques, des films vraiment inscrits dans le genre. Et puis ça va être récupéré dans d'autres pays dans le monde, en Asie, en Afrique, qui sont pas des pays qui ont cette mythologie du vampire, mais comme l'histoire du cinéma traverse les frontières, les réalisateurs vont s'approprier aussi ces mythes pour parler des problématiques de leur propre pays ou de situations géopolitiques qui les concernent. C'est ça qui est très marquant, c'est qu'est-ce qui fait, au-delà du fait que c'est une créature fascinante, que autant de réalisateurs différents ont voulu comme ça se l'approprier. C'est que ce cinéma fantastique-là qu'on voit chez Murnau joue vraiment sur tous les curseurs du cinéma et va permettre d'expérimenter des choses. En fait, il y a une acceptation aussi d'une altération du réel à l'image parce qu'on sait justement, comme je disais, qu'on est dans le réel et il y a une déchirure. Et cette déchirure est symbolique, mais elle passe aussi par une altération du monde et une altération esthétique du film. Et donc, chaque réalisateur va pouvoir créer son vampire et va pouvoir vraiment chercher des choses qui peuvent l'aider à trouver une pratique de cinéma. Certains films vont jouer sur le passage, par exemple, du noir et blanc à soudain la couleur ou vice-versa. Donc sur cette question d'altération de l'image, je pense à Nadja de 1994, qui a été réalisé par Michael Almeida, où lui, carrément, quand le vampire va mordre ses victimes, il va changer de caméra. Il va prendre une caméra jouet, Fisher-Price, qui servait en fait de jouet, quoi. Un peu une image du coup hyper pixelisée et qui n'a rien à voir avec le registre d'image précédent. Et il va jouer, il va expérimenter comme ça. Donc oui, le cinéma est le premier vampirisé parce qu'on dirait presque que l'image elle-même est mordue. Parce que quand on est mordu par un vampire, on a un peu une vision du réel qui commence à changer, on a de la fièvre, on est mal physiquement. Et nous, spectateurs, on l'expérimente à travers l'image puisque l'image elle-même est parasitée. Et par ce vampire qui le contamine.
D'ailleurs, un acteur qui a été beaucoup vampirisé, notamment Bela Lugosi, qui, dès ses premières interprétations du vampire, se fait donc au théâtre, notamment sur Broadway. Et il va notamment incarner souvent Dracula, notamment dès 1931, avec le Dracula de Todd Browning. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il a même été enterré avec, avec son costume de Dracula. Comment expliquer la fascination qu'a cet acteur du vampire? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur Bela Lugosi pour nos éditeurs, s'il vous plaît?
Alors, Bela Lugosi, c'est vraiment typiquement le genre d'histoire du cinéma d'histoire réelle du cinéma qui dépasse la fiction tellement ça paraît incroyable. Mais donc, en effet, il va d'abord jouer Dracula sur les planches à Broadway, l'adaptation écrite par Hamilton Dean du roman de Stoker, qui va d'ailleurs rendre très célèbre Dracula plus que le roman lui-même. C'est vraiment cette adaptation à Broadway qui va lancer l'engouement autour de Dracula. Et il va être choisi pour jouer dans le film de Todd Browning en 1931. Et au départ, lui, c'est plutôt un acteur classique qui vient de Hongrie. Il fait aussi bien des rôles du registre de Shakespeare. Et c'est vraiment un grand acteur. Et puis, finalement, il va se retrouver pris au piège de ce personnage, puisqu'à l'époque des studios, en plus, on signe un contrat, mais pour un certain nombre de films. Et régulièrement, du coup, il va se retrouver à faire une série de Dracula. Puis à un moment, ça s'essouffle, donc ça va devenir un peu parodique. Donc quelque chose aussi d'un peu humiliant pour un comédien qui avait comme ça cette espèce d'aura sur son public. Il y avait des femmes fascinées par lui. Enfin, Bela Lugosi, c'était tout un phénomène. Et justement, je pense que cette emprise de séduction sur les femmes, il s'est confondu lui-même un peu avec un vampire, puisque ces vampires ont cette aura-là. C'est une créature éminemment séduisante. Donc, entre le fait d'être piégé à jamais dans ce personnage, vampirisé totalement par le mythe de Dracula, et lui-même un grand acteur un peu en perte, oui, je pense que finalement, il s'est perdu entre réalité et fiction pour continuer à avoir une espèce d'existence, un mystère autour de lui. Je pense que c'est ça que raconte aussi Dracula, c'est une espèce de volonté de pouvoir sur soi-même et sur les autres, qui est propre à la nature humaine, l'ego, etc. Enfin, cette volonté d'exister, de marquer la Terre par son passage, quoi. Il y a quelque chose comme ça aussi avec le vampire.
Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, donc, quand on parle du vampire, vous disiez tout à l'heure que il prenait les mots de la société. Donc c'est quand même le vampire, c'est quand même un être qui peut sembler archaïque maintenant dans nos sociétés contemporaines. Pourtant, le point central, il reste le point central justement de notre compréhension du monde. Et comment on peut expliquer qu'il soit le reflet des mots de la société, notamment, je pense, comme vous disiez tout à l'heure, à la découverte du sida, donc dans Les Prédateurs de Tony Scott en 83 ou dans Les Lovers Left Alive de Jarmusch en 2013. Comment expliquer qu'il est à la fois un être à part de notre monde, mais qu'en même temps, il possède tous les maux de notre société?
Alors, je pense que les humains ont toujours eu besoin de créer des mythes et des images qui leur permettent de mettre à distance tout ce qu'ils ont du mal à comprendre et ce qui peut leur faire peur. D'ailleurs, on dit que finalement, le mythe, c'est la réponse de l'humanité à une question à laquelle elle n'a pas de réponse. Enfin, le mythe, c'est une manière de répondre aux angoisses les plus enfouies. Et en effet, ce vampire, c'est pas pour rien que c'est la lumière du soleil qui le tue, c'est associé en fait à Dieu, hein, la lumière du soleil, tout bêtement. Donc lui, c'est la créature de l'ombre, de cette part plus... Enfin, c'est une espèce, malgré tout, il fait plutôt partie du côté démoniaque, du monde souterrain. Donc il va incarner tout ce qui est maléfique. Il vient du monde de la nuit, etc. Puis pareil, en fait, c'est des croyances mis bout à bout, mais c'est toujours très intéressant parce que le vampire, il faut le tuer en lui mettant un pieu dans le cœur. Et c'est pas anodin, en réalité c'était le siège de l'âme, cette partie-là, le cœur. Donc on pensait que le vampire n'avait pas d'âme, pour le libérer comme c'était une créature errante, c'est comme ça qu'on faisait. D'ailleurs, Bram Stoker, quand il écrit Dracula, c'est aussi l'époque de Jack l'Éventreur. Il y a un début de l'industrialisation, mais à Londres, les rues, c'est des coupes-gorges, on n'a pas encore toutes les rues éclairées, donc ça matérialise vraiment beaucoup d'angoisse. Et le fait qu'il y ait des créatures des créatures, justement, on les considère créatures, on voudrait que ce soit des créatures, des gens bien humains, comme Jack l'Éventreur, qui peuvent tuer comme ça, ça ne s'explique pas, donc ça devient le vampire. Et ainsi de suite, il va incarner toutes les choses, en fait, qui paraissent... incompréhensible pour l'humain parce que ça le dépasse tellement c'est effrayant. Donc avec Nosferatu, même si c'est avant l'heure, ça va incarner le nazisme. Puis ça va être aussi un bouc émissaire, le vampire. Je reviens sur Bela Lugosi, mais à la fois aussi pour lui, il va être un peu victime d'une projection malgré tout entre guillemets, quand même un peu raciste, puisque à l'époque, en 31, il y a eu la crise économique en 29, et donc ça va très mal aux États-Unis, et on a quand même besoin d'un ennemi commun. Et l'air de rien, ce vampire à l'accent slave, il va matérialiser comme ça une espèce de, d'ennemi imaginaire. Enfin, l'ennemi vient d'ailleurs, l'ennemi vient du pays étranger. Donc il va cristalliser ça, toujours la peur de l'autre, la peur d'être envahi, etc., qui est un peu voilà, quelque chose de complexe, quoi. Pareil, il y avait une vamp des débuts du cinéma qui s'appelle Teda Bara. Et en réalité, ça veut dire, c'est un anagramme qui veut dire Arab Death. Donc c'est cette beauté qui est censée être exotique qui apporte la mort, quoi. Donc il y a tout un imaginaire comme ça. Et petit à petit, du coup, bah, ça va être traditionnellement cette créature bah, qu'on est habitué à plaquer sur elle tous les maux. Elle répandrait les maladies, elle répandrait les épidémies. Donc, bah oui, quand le sida va arriver, d'un seul coup, le vampire revient, parce que c'est la créature idéale pour parler de ce nouveau mot qu'on a beau être dans un siècle éclairé de médecine, et bien il y a ce virus qu'on ne comprend pas, il y a ce virus qui vient nous assaillir d'un coup, qui est terrifiant, et d'un seul coup, bah, c'est le vampire qui va réincarner ses angoisses extrêmement profondes. C'est ce qu'on disait, hein, le fantastique a l'obsession de tout ce qui vient d'en dessous, donc c'est vraiment nos craintes les plus enfouies. D'ailleurs, ce qui est étonnant, et je me suis fait la réflexion systématiquement depuis, bah, quand vous étiez venu à la Cinémathèque, l'exposition s'est terminée en février 2020. Et donc, peu de temps après, l'épidémie du Covid commençait. Et je me suis dit, c'est incroyable d'avoir autant parlé d'une créature qui porte les épidémies. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai, parce que ça nous a ramené à nous aussi, hein, à cet état de fait qui est que, bah non, même maintenant encore, on ne maîtrise pas tout et on peut être dépassé par des choses qu'on ne voyait pas venir. Et le vampire, c'est ça.
C'est vrai, effectivement, vous aviez raison sur ce point-là. C'est vrai que on peut faire une comparaison très très rapide et très correcte, notamment avec l'actualité de nos sociétés, qui a touché d'ailleurs le monde entier, puisqu'on a vu que la mondialisation a permis la propagation du virus. Et même si là, cette fois, ça touchait d'abord les autres pays avant de nous toucher nous, ça a quand même fini par venir en Europe et en France notamment. Et d'ailleurs, du coup, on va passer à un autre sujet, notamment à la transformation du personnage. Donc je pense qu'en fait, notamment, comme vous disiez tout à l'heure, hein, avec le roman Carmilla, donc de Joseph Sheridan Le Fanu, en 72, donc bien avant Dracula de Stoker, c'est un personnage donc féminin qui, lui, va faire un jeu sur les sous-entendus d'homosexualité du personnage, parce que c'est généralement la perversion de la petite vierge par la femme vampire. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aussi dans Les Prédateurs de Tony Scott, où Catherine Deneuve vient pervertir Suzanne Sarandon. Et voilà, il y a tout ce jeu-là. Comment on arrive à donc, en 72, la création du personnage féminin? Et comment arrive-t-on à aujourd'hui donc faire une érotisation du personnage, parce qu'il y a ce film-là, mais il y a aussi du coup l'utilisation pour les films érotiques du personnage, où il y a notamment plein de sous-genres du film qui ont été réalisés. Comment on explique ça?
Bah, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le vampire et l'image du vampire est surtout féminin, puisque à l'époque victorienne, autant dire que les femmes n'avaient pas beaucoup droit de cité sur leur sexualité. D'ailleurs, elles étaient le plus souvent cantonnées à une vie au foyer, etc. Elles n'avaient pas le droit vraiment d'avoir une vie épanouissante et sexuelle. Et du coup, Carmilla, ça va vraiment incarner tout ça, et ça va être une manière de parler de sexualité frontalement, encore une fois. Mais le vampire donne l'impression que, comme c'est surnaturel et fantastique, on ne parle pas de choses qui nous concernent directement. Et ça aura toujours été une créature qui va permettre de parler de sujets sexuels plus ou moins tabous. D'ailleurs, la figure homosexuelle masculine ou féminine revient très régulièrement, hein, même dans l'entretien avec un vampire, sauf qu'on a une époque où ça va être un peu plus explicite, où il y a réellement des scènes de morsure qui sont des scènes sexuelles. D'ailleurs, la morsure, c'est une métaphore de l'acte sexuel, oui. Les dents plantées dans le cou, évidemment, qui est une manière un peu de symboliser plus ou moins l'acte en lui-même. D'ailleurs, je sais plus, j'avais lu ça, je trouvais ça intéressant de dire que parfois, en tout cas, c'est dans notre langue, on dit être mordu de quelqu'un, donc ça montre bien le côté charnel qu'il peut y avoir, en fait, dans cette idée de morsure. Et surtout, il y a donc tous ces interdits qui vont faire qu'il va être encore plus séduisant et tentant de tout faire passer par ce vampire qui a le droit, lui, de vivre ça. Et j'allais dire aussi sur cette question de la femme, ce qui est intéressant quand on compare Carmilla, donc, qui est très très sexualisée, avec Mina Harker dans Dracula de Bram Stoker, oui. C'est qu'en réalité, les personnages féminins sont punis de leurs désirs sexuels. Par exemple, Lucie, finalement, elle est un peu contente d'avoir deux garçons qui la courtisent. Donc résultat, comme elle est déviante, elle va très vite, elle est une des victimes du vampire, et devenir une espèce de goule assoiffée. Et alors que Mina Harker, elle dit à un moment donné, donc c'est pour ça qu'elle est un peu sauvée, qu'elle est un peu, quand même, je sais plus, je crois que c'est qu'elle est pas hyper convaincue par le mouvement de l'époque en Angleterre qui s'appelle les New Women, qui est un premier mouvement féministe. Donc, y a quelque chose de très évolutif autour de la figure féminine qui va aller avec l'évolution des femmes dans la société aussi. Et heureusement, il y a des incarnations un peu plus marginales où très tôt, elle est très sexuelle. Mais je pense qu'en fait, c'est qu'on peut plaquer sur la femme vampire une sexualité complètement débridée qu'on n'a pas le droit de représenter vraiment ailleurs, quoi.
Donc avec cette première modification du personnage et avec la concrétisation notamment des transformations du personnage du vampire, du mythe, notamment avec l'arrivée du sida ou l'arrivée des maladies et le fait qu'il reprenne les mots de la société... Comment le vampire peut continuer à exister s'il ne se transforme pas et comment expliquer les transformations qui sont à l'œuvre dans les films de vampires maintenant ?
Alors, déjà, on est plus dans une période... il est un peu revenu là en série, il y avait une série récemment, Dracula, mais on est plus sur l'époque quand même des zombies, etc., oui, une espèce de crainte oui. apocalyptique.
C'est ça. Et je pense notamment à Jim Jarmusch qui est passé du vampire aux zombies.
Oui, c'est vrai.
Ouais, mais dans Only Lovers Left Alive, justement, les vampires ne vont pas chercher leurs victimes. Ils vont justement à la banque de sang, récupérer des poches de sang que leur médecin leur donne. Et c'est un peu un film, d'ailleurs, dans un espèce d'un monde confiné, en fait. Et le vampire, notamment Tilda Swinton, l'image qu'on retient, qui est dans le catalogue, d'ailleurs, c'est elle est allongée au pied de son lit et elle ne fait rien, elle attend. Donc c'est vrai que il y a les transformations, comment justement
Oui, alors ça se fait vraiment progressivement, mais c'est vrai que ce qui est assez nouveau avec Jim Jarmusch, c'est que d'un seul coup, il va proposer aussi le « et si l'éternité permettait une espèce de vie, de culture éternelle et c'est des espèces de vampires très érudits, en effet, ils ont une manière d'accès au sang très différente. C'est une vision très romantique, en fait, presque du vampire aussi par rapport à nos mondes aujourd'hui, de trouver un sens aux choses, etc. » Je pense du coup à un film qui est assez intéressant là-dessus de 2014 qui s'appelle A Girl Walks Alone at Night de Anna Lily Amypour. Et là, c'est une autre manière de récupérer le vampire et de détourner les codes. Je pense que ce qui sera toujours intéressant, c'est qu'il peut raconter plein de choses en essayant de prendre le mythe à l'envers. Normalement, on a plutôt un conte séduisant, un peu tout puissant, qui arrive à même hypnotiser ses victimes, qui s'abreuvent souvent du sang de jeunes vierges, etc., qui est plus complexe parce qu'il s'en prend aussi, bien sûr, à des victimes masculines. Mais là, d'un seul coup, dans ce film, d'une réalisatrice qui est franco-iranienne, on a une femme vampire un peu désœuvrée qui erre et qui, à la place de la cape, a un tchador qui fait comme une espèce de cape de vampire et qui, elle, va aussi s'en prendre un peu... À des personnes qui ont abusé ou agressé des femmes, etc. Ça devient une espèce de femme vampire justicière. Et comme si le mythe se retournait quoi, complètement. Quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est plus la jeune femme vierge qui est victime, mais la vampire qui va revendiquer un peu une revanche. Et c'est ce que raconte, que je trouve vraiment intéressant. Oui, donc c'est Paco Thielman, j'espère que je dis pas mal le nom, qui a beaucoup travaillé sur, par exemple, la série Buffy contre les vampires. Donc, parce que c'est aussi une prolongation de la figure du vampire, la série, et elle raconte beaucoup de choses aussi. C'est bien sûr différent d'un film au cinéma, mais c'est pas pour autant que ça raconte pas plein de choses. Et il explique qu'en 97, Joss Whedon, quand il va créer Buffy, il a vraiment l'envie de prendre complètement à revers l'image habituelle du vampire, où, comme je disais, on va avoir une jeune femme blonde qui va crier en hurlant. Bon, c'est pas toujours comme ça, je schématise. Et que d'un seul coup, cette femme blonde, c'est elle qui va chasser le vampire. Elle a le pieu, donc vraiment objet phallique. Et elle va prendre en main son destin. Elle va être filmée aussi comme un objet désirant, puisqu'elle désire les vampires qui se mettent un peu à nu pour elle, etc. Donc, il va réfléchir à la société d'aujourd'hui en complètement revisitant plein d'éléments figés habituellement de la figure du vampire. Et ce qu'il dit aussi, c'est par exemple, il cite Edgar Allan Poe qui disait à l'époque du romantisme, voilà, la mort d'une belle jeune femme, c'est le sujet le plus poétique du monde. Voilà, c'est vraiment, ça montre juste que le monde, enfin, c'est un peu évident ce que je dis, mais en perpétuelle évolution, mutation, et que ce vampire, du coup, il est éternel lui aussi, donc il peut prendre autant de formes qu'il y aura de modifications. Donc en fait, à tout moment, on peut repartir sur le mythe du vampire. Mais ce qui est certain, et ça, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il arrive à des moments d'angoisse et des moments d'impression de ne plus maîtriser notre environnement.
Oui, c'est ce qui explique aussi que maintenant on est passé un peu aussi au zombie, en fait, à la figure du zombie et plus trop à la figure du vampire, même si vous le disiez tout à l'heure, la série Dracula de Steven Moffat et Mark Gatiss est sortie, je crois, en 2019 sur la BBC. Mais la question, moi, qui me vient maintenant, c'est, à force d'utiliser trop la figure du vampire, est-ce qu'on va pas se lasser de faire des appels aux vampires, justement, dans les films ?
Alors, je pense que c'est pour ça que, de temps en temps, il retourne dans le caveau pendant une petite trentaine d'années et qu'on l'oublie, on le laisse un peu se régénérer pour aller le rechercher un peu plus tard. C'est qu'en effet, sûrement, et après, c'est un peu le cas dans beaucoup de figures littéraires ou cinématographiques qu'on retrouve souvent ou dans certains genres, c'est qu'il faut aussi du temps pour avoir des choses à dire et pour trouver une manière de revisiter. Puis c'est aussi parce qu'on l'oublie un peu qu'on a plaisir à le retrouver. Et en effet, là, je pense que c'est pas pour rien, comme on disait là, que c'est plus la figure du zombie qui va sûrement un petit peu disparaître à un moment, qui est plus lié à cette angoisse d'éco-anxiété post-apocalyptique de est-ce que comment on va faire quand il n'y aura plus grand-chose comme ressources et comment on va survivre, quoi. Ouais. Clairement, c'est ces angoisses-là qui sont plus d'actualité. Mais voilà, je pense que la manière de ne pas s'enlacer, c'est de le laisser de temps en temps retourner, se régénérer dans sa petite terre d'origine.
Ah oui, c'est sûr qu'en plus, il va se régénérer, mais... Un troisième film, Nosferatu, est en préparation, notamment par Robert Eggers, avec Bill Skarsgård, donc l'interprète de Pennywise dans ça, qui va interpréter lui-même Nosferatu, avec Lily Rose Depp, donc en victime du vampire. C'est intéressant de voir qu'il va revenir après, donc ça fait 100 ans que le premier film est sorti, en 1922, d'ailleurs c'était le 27 octobre qu'il était diffusé pour la première fois. C'est intéressant de voir que 100 ans après, Nosferatu va revenir sur nos écrans, et d'ailleurs les premiers affiches du film sont sorties et c'est la reprise même de l'apparat qu'avait Max Schreck en interprétant Nosferatu. Donc j'ai une dernière question pour vous. Le vampire donc est utilisé donc notamment dans l'exposition, c'est présenté par des caricatures sur les politiques. Comment expliquer qu'il soit utilisé en politique, notamment pour représenter Poutine, notamment pour représenter aussi Mitterrand quand il voulait réformer le Grand Paris qu'on connaît actuellement, ou avec notamment George Bush?
Oui, alors ça revient à ce que je disais par rapport à Bela Lugosi. Et d'ailleurs même, c'est déjà inhérent au roman de Bram Stoker, puisqu'il y a déjà aussi cette idée chez Stoker que l'ennemi vient d'ailleurs, d'un pays lointain, il y a toute une espèce d'imaginaire, de ces endroits qu'on maîtrise mal, qu'on ne connaît pas, etc. Donc c'est quand même, l'ennemi vient du lointain, donc ça appuie sur des zones humaines de, on a toujours peur de ce qui se passe ailleurs que dans sa zone de contrôle et de connaissance, quoi. Et il va vraiment souvent être récupéré, même d'ailleurs pendant les guerres, par des caricatures militaires ou autres, où on allait figurer, par exemple, l'ennemi allemand comme un vampire avec un masque à gaz, etc. Ou même, je crois qu'on faisait lire, pendant la Première Guerre mondiale, à l'armée britannique, on faisait lire Dracula. C'est la première ou la deuxième. En tout cas, pour les motiver à se dire qu'il fallait s'en prendre à cet ennemi qui était comme Dracula, quoi, qui allait venir sur leur terre, boire le sang de leurs femmes, etc. Et s'en prendre à leurs enfants, à tous ceux qu'ils connaissaient. Donc, ça cristallise le danger absolu contre lequel il faut se battre. Et donc, petit à petit, bah, ça reste quand même dans l'inconscient politique aussi, ce vampire politique. Et c'est pour ça que le politicien, c'est quelqu'un qui est considéré aussi comme voulant avoir du pouvoir. Dracula, lui, il cherche, c'est quelqu'un de très riche, etc. Il se nourrit du sang, encore une fois, du bas peuple pour vivre dans son château reculé. C'est quand même quelqu'un qui a un titre de noblesse, etc. Donc, les politiques vont être associés à ça, dans cette idée de parfois manipuler mentalement le peuple pour obtenir des choses de façon un peu détournée, quoi. Donc c'est cet imaginaire là aussi. Je me souviens qu'il y avait une caricature de Margaret Thatcher qui avait de l'huile qui coulait de ses dents par rapport à ce qui s'était passé en Écosse. Donc ou alors on avait aussi en effet George Bush qui avait il y avait la statue de la liberté et George Bush avec ses dents pointues. C'est vraiment ça, quoi. C'est cette non-confiance aussi qu'on peut avoir dans cet univers politique, univers où on pense aussi qu'on va chercher à nous manipuler, cacher des choses. Et donc, bah, évidemment, politiquement, ça vient avec ce vampire qui rentre dans les esprits, qui manipule les gens pour son propre profit.
D'accord, très bien. Merci beaucoup d'être venu nous parler des vampires. On l'aura compris, la figure du vampire nous accompagne depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, dans le catalogue de l'exposition, nous retrouvons d'ailleurs toute une filmographie non exhaustive, hein, parce qu'il y a tous les films qui sont recensés, tous les films, toutes les séries télé, même des bobines qui ont été retrouvées, qui sont inscrites dans la filmographie. Et vous l'aurez compris, le mythe du vampire n'a pas cessé en tout cas de nous enchanter et de nous émerveiller dans un univers lugubre à l'ambiance sombre. Vous pourrez retrouver le catalogue d'exposition en librairie. Vous pourrez le retrouver. Et en tout cas, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Au-delà des étoiles. Merci beaucoup.